Chapitre 20. Le soleil se couchait lorsque nous rejoignîmes le bâtiment situé derrière l'église, à l'opposé du presbytère. Les derniers rayons de lumière projetaient sa silhouette sur le flanc de la collégiale Saint-André. Derek nous attendait à l'entrée. Des gardes étaient postés aux alentours. La réunion se tenait dans le cellier. Je fus frappé par le contraste entre la pièce et ce qu'elle contenait. La grande table au plateau de bois noir et au piétement d'acier, les fauteuils de cuir design, les écrans interactifs, les paperboards numériques et tout le nécessaire pour mener une réunion de cette importance, contrastaient avec le sol de terre battue et les murs couverts de salpêtre, se terminant en une voûte d'un dépouillement absolu. Un imposant pressoir trônait dans un angle. 11 personnes étaient déjà présentes. Il y avait là William, quelques-uns de nos principaux chercheurs appartenant à la confrérie ou au groupe, ainsi que notre responsable de la sécurité, un ancien colonel de l'armée de terre du nom d'Isvoran. 2 autres scientifiques, trop éloignés pour nous rejoindre en un délai aussi court, participeraient en visioconférence. Les retrouvailles furent chaleureuses mais brèves et nous prîmes place autour de la table. William et un de nos chercheurs présidaient. Mes amis, commença William, l'urgence ne nous permet pas les formes habituelles de communication. Le temps nous manque pour réfléchir dans l'inquiétude. Beaucoup d'entre vous ignorent pourquoi ils sont ici. Certains n'ont jamais travaillé ailleurs que dans nos propres centres de recherche. Je vais essayer de résumer. Voilà maintenant 4 ans. Nous avons entamé un important programme de recherche concernant les lieux dans lesquels, il y a plusieurs siècles, des hommes, et particulièrement certains religieux, ont conduit des recherches scientifiques. Nous avions alors l'ambition de découvrir et de faire découvrir au monde moderne les leçons que ces précurseurs avaient dissimulées de crainte de les voir employées à des fins guerrières. Dans notre orgueil, nous avons pris l'engagement de comprendre tout ce que nous risquions de découvrir, mais aussi d'en garantir la saine et juste utilisation. Il régnait un silence total. William poursuivit. Nous avions sous-estimé l'avance scientifique de ces chercheurs d'un autre temps. Nous avions aussi mésestimé leur sagesse. Bien que n'ayant pas tout découvert de leurs travaux, ceux dont nous avons pu juger sont encore trop dangereux à ce jour pour être rendus publics. Nous risquons de déséquilibrer le monde en y introduisant des forces capables d'assurer la suprématie d'un camp au péril de tous. Quel homme responsable aurait pris sur lui d'annoncer la découverte du nucléaire s'il avait eu connaissance de l'utilisation qui en serait faite et des millions de morts qui en découleraient? Nous avons découvert, grâce aux travaux des frères, puis aux nôtres, des puissances bien plus grandes que l'atome. Des murmures bruissèrent autour de la table, accompagnés de hochements de tête. William reprit. La campagne d'alors permit de mettre au jour 17 de ces centres de recherche. D'après certains textes, cisterciens notamment, on estime leur nombre total à plus de 200, répartis dans toute l'Europe. Notre expédition scientifique avait terminé ses travaux à Montségur. Sur les écrans, des photos illustraient ses propos. Je reconnus certains des lieux dans lesquels j'avais moi-même travaillé. La dernière montrait Montségur, les vestiges d'un impressionnant château fort édifié au sommet d'un pic rocheux, tel une sentinelle de pierre veillant depuis plus de 800 ans. À l'époque, continuait William, nos ennemis nous suivaient davantage pour se tenir informés que pour nous concurrencer. Ils n'avaient aucun moyen de connaître l'objet de nos travaux. Nous avons clos le programme parce que les éléments recueillis à ce stade avaient de quoi nous occuper longtemps. Il aurait été difficile de garantir le secret sur un nombre plus important de découvertes. Il fit une pause et regarda tour à tour chacun des participants pour donner plus de poids encore à ce qui allait suivre. Mais aujourd'hui, nos adversaires ont décidé de se battre sur notre propre terrain. Ils vont tenter de retrouver d'autres laboratoires, d'en extraire le savoir et de s'en servir pour asseoir leur puissance. Dans l'assistance, nous ne devions être que 3 pour qui ce qu'ils venaient de dire n'était pas une surprise. Andrew, Derek et moi lisions la stupéfaction sur les visages de nos voisins. Isvoran prit la parole sceptique. Mais ils ne savent pas quoi chercher, ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont pas accès aux archives monastiques et n'ont aucun moyen de retrouver ces caches. Ils n'y ont en effet pas accès, mais ils ont suivi notre première expédition et peuvent faire un second passage à une ou plusieurs des étapes que nous avions couvertes. Une voix profonde s'éleva. Avec des chances réduites, mais pas nulles, de trouver les laboratoires que nous n'avions pas pu localiser à l'époque. Le hasard et l'appât du gain peuvent leur apporter le pouvoir que nous procure le savoir et la foi. L'homme qui venait de parler avait été un de mes maîtres. Ermite, philosophe, c'était l'un des hommes les plus étranges et les plus impressionnants que j'ai jamais rencontrés. Personne ne connaissait son nom. Nous l'appelions le sage en sa présence et par toute une série de surnoms trahissant le mélange de respect et de fascination qu'il nous inspirait quand il n'était pas là. À la fois noble et simple, il ne paraissait pas avoir d'âge. Il avait les traits d'un sexagénaire, la vivacité d'un jeune homme et le regard clair d'un enfant. J'avais fait sa connaissance alors que j'apprenais les sciences du feu au monastère de Vigo, en Espagne. J'étudiais là toutes les formes de la flamme, depuis la foudre jusqu'à l'allumette. Un soir, alors que je me rendais au réfectoire, l'un de mes professeurs m'envoya voir Yoda sur le clocher. Je crus d'abord à une plaisanterie, mais les yeux de mon professeur disaient autre chose. Je sortis, il faisait nuit et un orage grondait au loin, comme souvent au début de l'été sur les côtes de Galice. Je longeai le cloître, les yeux levés vers le clocher, et là, sous les arcades, juste devant les cloches, je vis sa silhouette à la faveur d'un éclair. Assez méfiant, je gravis l'escalier de bois menant au carillon. Un autre éclair claqua. Le tonnerre roulait de plus en plus fort. L'orage approchait. L'homme était là, à me fixer dans le noir sans rien dire. Il me fit asseoir près de lui, puis demanda. « As-tu déjà vu la lumière ?» La question me parut idiote. Pas un mot n'était sorti de ma bouche, et pourtant il m'asséna aussitôt. « Dis-toi toujours que celui qui te pose une question n'est pas forcément le plus stupide des deux. C'est peut-être toi qui ne la comprends pas. Je te le redemande. As-tu déjà vu la lumière ?» Dans le même temps, il montra le ciel d'un geste presque détaché. Quelques fractions de secondes plus tard, un éclair zébra l'obscurité à l'endroit exact qu'il avait désigné. « Fabuleux hasard !» me dis-je. Sans attendre ma réponse, il commença à me parler de choses que je ne compris que bien plus tard, mais qu'étrangement ma mémoire enregistra parfaitement. De temps à autre, il désignait une direction et, immanquablement, un éclair venait y briller. Cet homme pressentait les éclairs. Il me parla plusieurs heures durant, puis, comme à la fin d'un cours, me permit doucement de partir. Cela s'était passé plus de 10 ans auparavant. Je ne devais le revoir et découvrir son visage au grand jour que 6 ans plus tard, lorsque je pris part à l'organisation de cette fameuse première campagne. Le sage y avait alors pour fonction d'analyser nos découvertes. Il n'était pas homme à fraterniser. Il dégageait une titanesque impression de puissance étroitement associé à un incommensurable savoir qui le plaçait à part. C'était le genre d'homme que tous les peuples de la terre s'accordent à appeler un sorcier. Le sage avait coupé la parole à William. Il était peut-être le seul à en être capable, non que nous eussions peur de William, mais il était probablement l'unique personne à cette table à en savoir davantage que tous les autres réunis sur les pouvoirs de l'esprit. William l'écouta respectueusement avant de reprendre. Andrew a découvert le complot que trament nos ennemis pour mener cette croisade. Ils n'auront pour chercher que les indices qu'ils ont tirés en nous observant lors de notre première expédition. Ils n'ont probablement pas idée de ce après quoi ils courent, mais ils ont une certitude, ce peut être profitable pour eux et dangereux pour nous. C'est ce qui leur importe. Nous devrons aller plus vite qu'eux et assumer la charge que nous avons volontairement choisi de perpétuer. Tous les membres réunis dans la pièce possédaient une compétence susceptible de servir le projet. Andrew afficha à l'écran le rapport qu'il m'avait montré plus tôt. Ce document synthétise les moyens que nous allons devoir combattre. Nous avons la quasi-certitude du lieu où nos ennemis vont entamer leurs recherches. Leurs forces se concentrent actuellement dans le sud-ouest de la France, entre les Pyrénées, l'Aude et les Corbières. Nous avions fait de cette région la dernière étape de notre campagne, parce qu'elle promettait d'être la plus riche. L'endroit regorge d'anciennes commanderies, d'abbayes, et donc probablement de laboratoires, et parce qu'elle exigerait toute l'expérience acquise sur les précédentes. Nous n'avons cependant pas trouvé grand-chose. Nous avons pu réunir depuis de nouvelles informations, dont celles que frère Benoît a découvertes dans une annexe de la crypte de Chartres. Elles confirment nos présomptions. Le pic de Montségur ne nous a pas tout livré. Et c'est à cet endroit que leur cartel semble vouloir entamer la course. D'autres intervenants nous détaillèrent les ressources dont nous allions disposer. Il allait falloir ruser, observer nos ennemis comme ils l'avaient fait, les entraver et seulement s'il n'y avait pas d'alternative, les affronter. William s'adressa au sage. Acceptez-vous à nouveau la lourde tâche de comprendre ce que nous sommes susceptibles de trouver ? Le sage opina de la tête, le regard brillant. William se tourna vers moi. Te sens-tu la force de reprendre la direction sur le terrain ? Il le faut. Je serai là. Il continua son tour de table, assignant à chacun sa mission. Andrew coordonnerait le tout depuis Londres, ce qui lui permettrait aussi de se tenir informé des actions du reste du camp adverse. Derek assurerait la logistique. Le sage et Benoît allaient installer leur quartier dans une abbaye des Pyrénées. Avant de donner le signal du départ, William prit la parole une dernière fois. Je crois inutile de vous rappeler les enjeux de cette course. Ils sont prêts à tout. Nous avons pu nous en rendre compte avec l'attentat. Ne prenez pas de risques inutiles, mais aucun sacrifice ne doit être épargné si cela peut garantir la protection de ces laboratoires. Soyez parfaits. Nous sortîmes les uns après les autres. Andrew, Derek, Isvoran et moi avions encore beaucoup à voir. Au moment où je franchissais la porte, le sage me retint doucement par le bras. « J'aimerais te dire un mot, si tu le veux bien. » Je fis signe aux autres d'avancer sans moi. Il me fit face et me regarda droit dans les yeux. « Je vais m'établir à l'abbaye de Saint-Martin. » Elle est en hauteur et proche du pic de Montségur, ce qui facilitera la tâche de nos protecteurs. J'attendrai, comme la première fois, que tu m'apportes les découvertes enfouies dans les laboratoires. Je souhaitais te parler, car j'ai su ce qui t'est arrivé, et je sens ce que tu vas affronter. J'éprouvais la même sensation qu'autrefois sur le clocher du monastère de Vigo. Aucune peur, juste la certitude d'entendre la vérité. Il lisait en moi comme dans ses grimoires. Ce que nous avons découvert la première fois n'était rien en comparaison de ce qui nous attend. Je le subodore. Mais ce que tu vas découvrir en toi sera tout aussi important. Tu as changé. Il n'est plus temps pour toi d'apprendre ce que les autres veulent t'enseigner. Tu dois choisir tes propres leçons. Tu trouveras les réponses dans le monde. La connaissance n'est rien, c'est la compréhension qui compte. Tu vas vivre ce que peu d'hommes ont vécu. Aime tes proches et suis ta conscience. Seulement elle, à l'exclusion de toute autre loi. J'ai confiance. Je suis heureux de repartir en quête à tes côtés. Après un silence, il reprit. Tu vas devoir apprendre beaucoup à ton ami et... Dans la précipitation, tu prends la responsabilité de le protéger. Je ne souhaite pas l'impliquer davantage. Toi, tu ne le souhaites pas, mais lui. Dieu seul sait ce que réserve l'avenir. Votre amitié vous aidera. Il prit mes mains dans les siennes. Nous nous reverrons bientôt. Prends soin de toi et des tiens. Le sage fit mine de s'éloigner. Puis se retourna. Je crus alors apercevoir une lueur amusée dans son regard. « Peut-être vas-tu pouvoir répondre à une question ?» Que pouvais-je lui apprendre qu'il ne savait déjà ? « Sais-tu qui, le premier, m'a donné le surnom de Yoda ?» Je m'attendais à tout sauf à ça. L'image d'Andrew surgit dans mon esprit. Je la chassai en bafouillant. C'est étrange comme même les hommes les plus mûrs peuvent parfois avoir des réactions de collégiens. Je ne vais pas te gronder. Tu diras donc à Andrew que ça ne me gêne pas. D'ailleurs, je trouve ce surnom-là plutôt amusant. Mais qu'il ne m'appelle plus Ramsès. Il s'éloigna. Même de dos, il restait très impressionnant.